Chapitre 16. L'amour et la foi, c'est évident, sont là, mais leur foi est encore lente et sans intelligence quant à la résurrection du Seigneur. Même ces femmes dévouées ne pensent qu'à embaumer son corps, comme le montrent les premiers versets de ce chapitre. Mais ce manque de discernement qui les caractérise ne fait que mettre en valeur ce qu'il y a d'irréfutable dans ces preuves, qui finalement leur impose la conviction que le Seigneur est ressuscité. Comme le soleil se lève, le premier jour de la semaine, elles sont au sépulcre pour découvrir seulement que la grosse pierre qui ferme l'entrée a été roulée. Elles entrent et ne trouvent pas le corps saint du Seigneur, mais un ange, ayant l'apparence d'un jeune homme. Matthieu et Marc parlent d'un ange. Luc et Jean parlent de deux. Ceci ne représente bien sûr aucune difficulté, puisque les anges apparaissent et disparaissent à volonté. L'ange qui apparaît aux femmes, effrayé sous la forme d'un jeune homme vêtu d'une robe blanche, était apparu un peu avant au gardien comme quelqu'un dont l'aspect était comme l'éclair et le vêtement blanc comme la neige, si bien qu'une sorte de paralysie s'était emparée d'eux. Il apparaissait sous un aspect au monde et sous un autre tout différent aux disciples. Il savait faire la distinction. Il savait que ces femmes cherchaient Jésus, même si elles croyaient que Jésus était toujours dans la mort. Ignorantes, elles l'étaient. Cependant, elles l'aimaient. Et cela changeait tout. Pourtant, le témoignage des anges n'a pas grand résultat pour le moment. Sans doute fait-il sur elles une forte impression, mais celle-ci se traduit surtout par la peur, le tremblement, la stupéfaction. Il ne produit pas cette calme assurance de la foi qui ouvre la bouche pour témoigner aux autres. Elle ne pouvait pas encore s'approprier ces paroles. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Psaume 116, verset 10, 2 Corinthiens 4, verset 13. Bientôt, elles partageront cet esprit de foi qu'ont possédé Paul et le psalmiste, mais ce sera quand elles seront personnellement mises en contact avec le ressuscité. L'Écriture indique clairement que les anges ont un ministère à accomplir en faveur des saints, comme en témoigne Hébreux 1, verset 14. Leur ministère, quand ils s'adressent aux saints, n'est pas fréquent et provoque généralement une grande frayeur chez ceux qui en sont les objets, comme c'est le cas ici. Leur message pourtant est très clair. Il n'est pas ici, en est la partie négative, et c'est ce que les femmes peuvent vérifier par elles-mêmes. La partie positive, c'est « il est ressuscité ». Cela, elles ne peuvent pas le vérifier à ce moment-là, et en conséquence, il ne semble pas qu'elles soient profondément convaincues. Suit, au verset 9 à 14, un bref résumé des trois apparitions marquantes du Seigneur ressuscité, dont nous avons un récit plus détaillé dans les autres évangiles. Il y a d'abord l'apparition à Marie de Magdala, qui nous est donnée avec tellement de détails dans l'évangile selon Jean. Elle a été la première à voir vraiment le Seigneur ressuscité. Marc ne permet aucun doute à ce sujet. Cela a son importance, car cela montre que le Seigneur a d'abord pensé à celle dont le cœur est peut-être plus accablé que tout autre parce qu'elle a perdu le Seigneur. En d'autres termes, l'amour a les premiers droits à l'attention de Jésus. En conséquence, elle croit vraiment et peut donc parler pour témoigner devant les autres. Pourtant, ces paroles n'ont que peu d'effet. Les autres aiment vraiment le Seigneur, car ils sont dans le deuil et pleurent, et la profondeur même de leur chagrin les rend insensibles à tout témoignage qui ne les amène pas à le voir lui-même, de leurs propres yeux. Il y a ensuite son apparition aux deux qui s'en vont au champ, ce qui nous est donné avec tant de détails dans Luc. Ceux-là ne l'ont pas renié comme Pierre, mais ils ont tellement perdu courage qu'ils s'en vont à la dérive, sans but, loin de Jérusalem, comme s'ils voulaient tourner le dos à un endroit qui n'évoquait pour eux que des espoirs déçus, une perte et une déconvenue des plus tragiques. La vue d'un Christ ressuscité leur fait faire demi-tour et les ramène vers leurs frères avec cette bonne nouvelle. Pourtant, cela ne vient pas à bout de l'accablement des autres, qui se refusent à croire. Et c'est une bonne chose pour nous qu'il en ait été ainsi. La résurrection nous transporte en dehors du présent ordre de choses, et la résurrection du Seigneur est un fait d'une portée si considérable qu'il faut absolument qu'il soit établi par de multiples preuves irrécusables. Troisièmement, Son apparition aux onze. Il se peut fort bien que ce ne soit pas une de ces occasions qui nous sont données de façon plus détaillée en Luc et en Jean, car il est écrit « comme ils étaient à table ». Prenez le récit de Luc, par exemple. On conçoit mal que le Seigneur ait demandé « avez-vous ici quelque chose à manger ?» s'ils avaient été à table. La présence de nourriture aurait été trop évidente. Il se peut donc que ce soit une occasion qui n'a pas été rapportée dans les autres évangiles. À cette occasion-là, il leur fait bien sentir leur incrédulité en leur faisant des reproches, et pourtant, malgré tout, il leur confie une mission. Il est remarquable de voir comment ces missions, qui sont rapportées dans les quatre évangiles, diffèrent l'une de l'autre. Ce qui nous est dit en acte 1, verset 3, nous amène à comprendre pourquoi. C'est souvent pendant les 40 jours qu'il est apparu à ses disciples, parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Évidemment, pendant cette période, il leur a présenté leur mission selon différents points de vue, et Marc nous donne l'un d'eux. On peut bien s'étonner qu'après avoir été obligé de leur reprocher leur incrédulité, il les envoie prêcher l'évangile afin que d'autres croient. Cependant, après tout, celui qui, par dureté de cœur, s'est obstiné dans l'incrédulité, est, lorsqu'il a été lui-même complètement gagné, un précieux témoin pour d'autres. Le champ d'application de cette mission, qui est d'annoncer l'Évangile, est on ne peut plus vaste. C'est le monde entier, et non pas seulement le petit territoire d'Israël. De plus, l'Évangile doit être prêché à toute la création, et pas seulement aux Juifs. C'est, en d'autres termes, pour tout le monde et partout. La bénédiction à laquelle amène cet évangile est spirituelle dans sa nature, car il apporte le salut quand la foi est là et qu'on se soumet au baptême. Il ne faut pas transposer les mots baptisé et sauvé et dire « celui qui croit et qui est sauvé sera baptisé ». Dans aucun passage de la parole, le baptême n'est lié à la justification ou à la réconciliation, mais il y a d'autres passages qui rattachent le baptême au salut. C'est parce que le salut est un mot qui comprend beaucoup de choses et dont la portée inclut la délivrance pratique du croyant, qu'il soit juif ou gentil, par rapport à tout le système de ce monde dans lequel il était autrefois plongé. Ses liens avec le système de ce monde doivent être coupés, et le baptême montre le fait que ces liens sont coupés, qu'il y a, en un mot, dissociation. Celui qui croit à l'Évangile et accepte la rupture des liens avec ce monde qui le tenait captif est un homme sauvé. Quelqu'un peut bien dire qu'il croit, et même le dire en vérité. Cependant, s'il ne veut pas se soumettre à cette rupture des liens d'autrefois, on ne peut pas parler de lui comme de quelqu'un qui est sauvé. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, bien sûr, mais c'est une autre question. Quand il est question de condamnation, le baptême n'est pas mentionné. C'est très significatif. Cela montre sur quel terrain repose la condamnation. Même si quelqu'un est effectivement baptisé, mais ne croit pas, il sera condamné. L'ordonnance extérieure est prescrite par le Seigneur de façon claire, mais elle ne peut être administrée que s'il est fait profession de foi. Et la profession, comme nous le savons que trop bien, n'est pas synonyme de possession. Le salut n'est pas effectif indépendamment de la foi. Pierre peut bien nous dire « Le baptême vous sauve aussi maintenant » 1 Pierre 3, verset 21. Mais notez qu'il s'agit de « vous » et que ce « vous » représente des croyants. Les versets 17 et 18 ont fait l'objet de beaucoup de controverses acharnées. Les signes miraculeux qui y sont mentionnés accompagnent, selon certains, ceux qui prêchent l'Évangile, et il conviendrait qu'il soit vu, sans restriction aucune, de nos jours. Il est peut-être utile de faire remarquer deux ou trois points. En premier lieu, ces signes doivent accompagner non pas ceux qui prêchent, mais ceux qui croient. En deuxième lieu, le Seigneur déclare que ces signes se manifesteront sans qu'il y ait de conditions préalables pour celui qui prêche. Il n'est pas stipulé qu'il doit faire l'expérience d'un baptême de l'Esprit particulier, comme on l'affirme souvent. Si des hommes croient, ces signes les accompagneront. C'est ce que dit le Seigneur. Tout ce qu'on pourrait déduire de leur absence, c'est que personne n'a vraiment cru. En troisième lieu, il y a des mots qui n'apparaissent pas dans cette déclaration, et certains dans leur esprit semblent les y trouver dans la lecture qu'ils en font. Il n'est pas dit que ces signes accompagneront tous ceux qui croient, en tout lieu et en tout temps. Si c'était le cas, nous serions forcés d'en venir à la conclusion qu'aujourd'hui, pratiquement personne n'a cru à l'Évangile. Nous n'y avons même pas cru nous-mêmes. Ces paroles de notre Seigneur, bien sûr, ont eu leur accomplissement. Sur les 5 signes mentionnés, nous pouvons en indiquer 4 qui ont eu lieu et qui sont rapportés dans le livre des Actes. Pour le 5e, boire quelque chose de mortel sans que cela nuise, nous n'avons aucun témoignage, et cependant, il n'y a pas l'ombre d'un doute que cela soit arrivé. Le Seigneur a dit que cela arriverait, et nous le croyons. Sa parole nous suffit. Il donne les signes selon son bon plaisir et quand il voit qu'ils sont nécessaires. Les 2 versets qui terminent notre évangile sont d'une extrême beauté. Nous nous souvenons qu'il a placé devant nous notre Seigneur sous le caractère du grand prophète qui nous a pleinement apporté la parole de Dieu, du parfait serviteur qui a pleinement accompli la volonté de Dieu. Tout a été rapporté avec une concision frappante, comme il convient à une telle représentation de sa personne. Et maintenant, à la fin, avec la même brièveté, est placé devant nous le terme de cette merveilleuse histoire. Le Seigneur, ayant communiqué aux disciples tout ce qu'il désirait, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Sur la terre, il avait été rejeté, mais il a été reçu dans le ciel. Ses œuvres sur la terre avaient été refusées. Et maintenant il s'assied à une place qui parle d'un gouvernement et d'un pouvoir auquel on ne saurait résister. Mais il est indiqué qu'il a été élevé, et ainsi l'accent est mis sur le fait que sa réception et sa séance à la droite de Dieu sont la conséquence d'un acte de Dieu. Sur la terre, le serviteur parfait a bien pu être rejeté, mais par l'acte souverain de Dieu, il prend cette place d'autorité où rien n'empêchera sa main d'accomplir le bon plaisir du Seigneur. Le dernier verset indique dans quelle direction se déploie l'activité du Seigneur dans le temps actuel. Il ne s'occupe pas encore de la terre rebelle pour la gouverner en justice. Il le fera quand l'heure sonnera pour cela, selon les desseins de Dieu. Aujourd'hui, les pensées du Seigneur sont tournées vers la propagation de l'Évangile, comme il venait de le leur dire. Ses disciples sont bien allés prêcher, sans observer ni frontières ni limites. Mais la puissance qui a rendu efficaces leurs paroles et leurs travaux était la puissance du Seigneur lui-même et non la leur. Là-haut, de son trône élevé, il a coopéré avec eux et leur a donné les signes qu'il avait promis, comme cela est rapporté au verset 17 et 18. Il a donné ces signes pour confirmer la parole, et cette confirmation était particulièrement nécessaire lorsque la parole a commencé à être proclamée. Bien que les signes mentionnés au verset 17 et 18 ne se voient que rarement de nos jours, des signes accompagnent bien encore la prédication, signes du domaine moral et spirituel, des caractères et des vies qui sont entièrement transformés. Le parfait serviteur, à la droite de Dieu, est toujours à l'œuvre.